C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui est au bout du fil. Monsieur Dubé, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Lagacé.
Monsieur Dubé, une couple de questions. D'abord, là, j'ai vu que, bon, c'était annoncé, vous avez déposé le projet de loi pour lever l'état d'urgence sanitaire, mais vous allez garder certains pouvoirs de décret. Est-ce qu'on lève ou on ne lève pas l'état sanitaire? L'état d'urgence?
Oui, L'état d'urgence, elle va être levée parce que par le projet de loi, on dit lorsque le projet de loi va avoir été voté par l'Assemblée, officiellement voté. Mais je veux juste préciser deux petites choses, M. Lagacé. Il y a deux types de mesures qu'il faut comprendre. Il y a des mesures qui affectent la population, puis il y a des mesures qu'on doit se garder pour les opérations. Puis je vais m'expliquer.
C'est quoi les opérations?
Les opérations, là, c'est d'être capable, par exemple, d'engager des vaccinateurs qui puissent continuer à faire leur travail parce que ces vaccinateurs-là, par exemple, leur corporation professionnelle ne nous permettait pas de le faire. Je vous donne un exemple. On a engagé des vétérinaires, des hygiénistes dentaires qui n'avaient pas le droit, de par leur code de profession, de vacciner. On avait fait un décret, puis on avait dit on passe de 3 types de personnes qui peuvent nous aider à 30 personnes. Rappelez-vous qu'on vaccinait 100 000 personnes par jour, ça prenait des vaccinateurs. Alors, ce qu'on a dit, des mesures opérationnelles, parce qu'il est possible qu'il y ait une vague au mois de septembre, on ne veut pas avoir à redéclarer des mesures d'urgence, mais on veut avoir accès à ces vaccinateurs-là, parce que ça va prendre du temps avant qu'on ait fait accepter aux corporations de nous laisser faire ça maintenant à temps plein. C'est un exemple de transition qu'on a besoin parce qu'on est déjà rendu au mois de mars. Le temps que le projet de loi soit passé, je veux être certain que si on a besoin d'être prêt pour une autre vague, au mois d'août, au mois de septembre, ben que ces personnes-là, on y a accès.
Qu'est-ce que vous n'aurez plus le droit de faire quand le projet de loi sur la levée de l'état d'urgence sanitaire va être adopté?
J'ai plus le droit de passer aucune mesure qui affecte la population, premièrement.
Le masque, des affaires comme ça.
Bon, la seule mesure populationnelle, on se comprend maintenant c'est quoi une mesure populationnelle, qui reste, c'est le masque. Le docteur Boileau, il a dit qu'au plus tard, les derniers relents du masque, là, ben, incluant dans le transport en commun, ça devrait être enlevé au mois d'avril. La minute qu'on va avoir enlevé ça, on ne peut plus retourner en arrière, on ne peut plus imposer aucune mesure populationnelle. Le passeport vaccinal, nommez-les. Il n'y a plus rien qu'on peut faire.
Il faudrait réadopter l'état d'urgence à ce moment-là, s'il y avait une sixième vague.
On souhaite pas ça à personne. Ce qu'on veut, c'est justement, M. Lagacé, ce qu'on veut être capable, c'est pas de repasser des mesures d'urgence. Ce qu'on veut être capable, c'est de vacciner les gens et de les dépister pour être sûr qu'on garde le contrôle sur une vague si une vague arrivait.
OK. Vous avez dit, dans la conférence de presse ce midi, là, M. Dubé, vous avez dit « On est à la fin d'un long combat contre le virus ». Écoutez, il y a beaucoup d'experts qui disent que la pandémie n'est pas finie.
Oui, puis on est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est prudent. Moi, ce que j'ai expliqué là, durant le point de presse, j'ai dit « Regardez, encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, il y a encore 50, 60, 70 personnes qui rentrent à l'hôpital tous les jours avec la COVID. » Ça veut dire que le virus est encore là. Ce qu'on a réussi maintenant, grâce à la collaboration de tous les Québécois, c'est d'être capable d'aplatir la vague. Rappelez-vous quand le docteur Arruda parlait de ça. Maintenant, quand il rentre 60-70 personnes de COVID à l'hôpital, on est capable de gérer ça. C'est ça qu'on veut continuer à faire, parce que le virus est encore là. Mais si jamais il y avait une augmentation d'une vague à l'automne, ben là, on sera capable, sans mesure d'urgence, de bien vacciner les gens et de s'occuper d'eux.
OK, mais je vous présente un cas de figure, là. S'il y a une montée des cas, comme on a vu entre Noël et le jour de l'an, où votre gouvernement a imposé le couvre-feu, on a tout fermé, là, est-ce que vous allez redécréter l'état d'urgence sanitaire?
Moi, je pense pas, parce que je vais vous dire, les conditions ont changé. Rappelez-vous, quand on a eu le couvre-feu, là, c'était la tempête parfaite. Moi, je me souviens très bien là des jours difficiles de fin décembre. Il nous manque 20 000 employés. On avait 20 000 infirmières qui manquaient, qui étaient malades. D'accord? On avait des gens qui n'avaient pas été vaccinés. On avait une foule de raisons. On était au cœur de l'hiver. Il faisait froid. Les gens étaient en dedans. Il y avait eu des contacts dans les derniers jours. Est-ce qu'on peut ravoir cette tempête parfaite-là? Je peux vous dire une chose, le docteur Boileau va suivre ça de très proche. Si on a besoin d'accélérer la vaccination, par exemple, au cours des prochaines semaines ou durant l'été, si on voyait que les cas recommencent à monter, on a une meilleure visibilité. On sait ce qui se passe en Europe. On est capable de le suivre. On suit les recommandations de la santé publique avec l'équipe du docteur Boileau. Je ne pense pas qu'on va se retrouver dans la même situation. Je pense qu'on a beaucoup appris des dernières vagues.
OK. Je vous amène sur un terrain connexe, monsieur le ministre. Là, on le sait, en CHSLD, on a manqué de personnel. Le gouvernement a augmenté bonifié les conditions pour s'assurer d'avoir notamment des préposés aux bénéficiaires. Mais il y a différents types de CHSLD. CHSLD public, conventionné, non conventionné. Ce matin, dans la presse, à la une, il y avait un reportage de Gabriel Duchesne là, qui donnait la parole à des gens qui gèrent des CHSLD privés. Non conventionnés. Et là, eux, leurs employés sont moins bien payés qu'ailleurs dans le réseau. Bref, ils ont des pénuries. Et il y avait une citation choc à la une, quelqu'un d'un de ces CHSLD qui disait « Nous, il y a des patients qui risquent d'être dompés aux urgences. » Écoutez, y a-t-il un moment donné où tout le monde qui fait le même travail dans le réseau va avoir le même salaire?
Bien, c'est pour ça qu'on a lancé, vous avez raison, parce que moi, cette expression-là, de domper des patients, là, je suis pas sûr que j'ai bien apprécié.
C'est pas chic, mais ça dit ce que ça dit, M. le ministre.
C'est pas
là.
Chic du tout, mais ça fait réagir, puis c'est correct. Mais je vais être très clair, M. Lagacé. En ce moment, il reste 40 CHSLD sur plus de 400 qui sont privés. Il y en a trois, on a pris des trois, là, puis on a fait un projet pilote, parce qu'on a dit ce qu'il faut, c'est que ces CHSLD privés, pour qu'ils deviennent conventionnés, il faut qu'il y ait les mêmes conventions que dans le public. Alors, quand on augmente les salaires et préposés aux bénéficiaires, tout ça, ce qu'on veut. Alors là, on est en train, dans ces trois projets pilotes-là, de regarder tout ce que ça va nous coûter pour être capable d'amener des CHSLD privés qui restent à être conventionnés. Alors, on travaille là-dessus et on va tout faire pour retenir le personnel. Mais, en fait, les gens, c'est beaucoup d'argent qu'on parle, mais on est en train de faire cette analyse-là pour être capable, après avoir fini ces trois projets pilotes-là, qui sont en cours, on est en train de le faire, là, être capable d'amener à pouvoir les conventionner.
M. Dubé, je comprends que vous n'aimez pas le terme « dompé », là, mais ça dit quand même ce que ça dit. Si dans les CHSLD non conventionnés...
M. Lagacé, non seulement j'aime pas ça, mais ces gens-là sont en négociation en ce moment. Alors,
qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais écoutez, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est avoir plus de sous. On est d'accord. Mais on peut-tu utiliser des bons termes? On parle de personnes ici.
Regardez, je comprends. Mais eux, ce qu'ils vivent, c'est le fait que dans le public, dans d'autres types de CHSLD, les gens sont mieux payés. Qu'est-ce qu'ils font, leurs employés? Ils démissionnent, s'en vont ailleurs.
Oui, mais on s'est engagé à le faire.
Je comprends, mais vous convenez avec moi, là, vous avez vu les chiffres comme moi, vous avez vu les témoignages. Il y a quand même des CHSLD privés non conventionnés qui manquent d'employés, présentement.
Oui, regardez, c'est pour ça que je suis d'accord qu'on est en train de le faire. On a payé à ces gens-là des primes pendant 2 ans pour qu'ils soient à la même place que les CHSLD publics. Alors, je comprends que ça les inquiète parce que dans un mois, on enlève certaines primes. Hein, c'est ça qui les inquiète. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a eu des discussions. Mais en même temps, on va trouver la bonne façon, avec Marguerite Blais, de pouvoir amener ces gens-là aux mêmes conditions. Puis ça fait partie des discussions qu'on a avec eux en ce moment.
Mais M. Dubé, moi, c'est vous le patron, là, c'est vous le patron du système, vous le connaissez mieux que moi. Comment ça se fait que quelqu'un qui fait un travail X est payé moins cher dans un CHSLD selon le type de CHSLD? Moi, ça se fait qu'on n'est pas capable de payer le même salaire à tout le monde?
Savez-vous, je vais vous donner la vraie réponse, là, puis vous allez me dire que je fais de la politique, vous savez que j'aime pas ça. Mais il y a une chose, c'est qu'avant, dans les gouvernements qui nous ont précédés, ce qui coûtait le moins cher, c'était la meilleure chose. Alors, on allait au privé, puis on disait, c'est qui le fournisseur qui peut nous donner des places en CHSLD au moins cher? On a vu ce que ça a donné, là, d'avoir des places payées au moins cher. Nous, en ce moment, on s'est engagé en faisant ces trois projets pilotes-là, de ramener les conditions des CHSLD privés aux mêmes conditions que le public. On est en train de le faire. C'est pour ça que c'était une question de coût, puis ça, pour moi, c'est pas acceptable. Mais en attendant, on n'ira pas domper du monde aux urgences. Ça, je suis pas d'accord.
Mais écoutez, qu'importe le verbe, à la fin, ce que le monsieur décrivait dans le papier de la presse ce matin, M. Dubé, là. Qu'importe, je comprends que vous n'avez pas aimé le verbe domper, là, mais la réalité, c'est que s'ils n'ont pas le personnel, ils vont les envoyer à l'urgence.
Bien, c'est OK. Alors, maintenant qu'on a réglé le terme, ce que je vous dis, on est en train de le faire. On est en train de le faire. Puis, on ne laissera pas des gens, on l'a vu, là. Vous allez voir, je vais le déposer, le plan de santé. On ne laissera pas des gens dans des CHSLD, qu'ils soient privés ou non, être maltraités. Ça, pour moi, c'est très clair.
OK, avant de vous laisser partir, un dernier thème. Vous avez parlé de 5 à 10 ans pour la refondation du système de santé. Je dois vous dire que j'ai avalé mes cornflakes de travers quand j'ai vu ça. Dans 5 ans, je ne sais pas si vous allez être là, mais dans 10 ans, je suis sûr que vous ne serez pas là.
OK. Je vais vous dire ce que j'ai dit, puis je ne veux pas faire partie du club des mal cités. OK? On a un horizon 2025 dans le plan que je vais déposer, là, tout de suite après le budget du ministre des Finances. OK? On a un horizon de 4 ans. On va être capable de bouger énormément l'aiguille. D'ailleurs, on a commencé à bouger sur plusieurs choses. Quand j'ai dit 8 à 10 ans, il faut avoir une vision de 10 ans. Moi, je regarde, là, les pays qui gèrent mieux leur réseau de santé, là. Je pense au Danemark, je pense à la Suisse. Les pays qui deviennent pour moi des exemples, des benchmarks. Ça, là, pour être là, ça va prendre 8 à 10 ans. Mais je peux vous dire que dans les 4-5 prochaines années, c'est ça qu'on va dire dans le plan, c'est l'horizon, c'est 2025. Vous allez voir que l'aiguille, elle va bouger.
Le débat est déjà en train de virer sur le privé. Dans votre vision de la place du privé, puis le PM a dit qu'il y a peut-être 20 % des problèmes qui peuvent être réglés par le privé, est-ce que ça veut dire que les citoyens doivent payer pour des services de santé?
Bien, c'est ça. Ça, c'est tellement pas ça. Vous avez raison. Je suis content de la question. Prenons l'exemple durant la pandémie. Ça, on l'a appris, là. On a fait 87 000 chirurgies parce qu'on avait un réseau qui était fatigué, puis on pouvait pas faire les chirurgies, puis on voulait pas avoir trop de retard. On a pris des gens qui avaient besoin d'une cataracte ou des opérations très importantes, là, notamment au niveau des yeux, qu'on a envoyé dans des cliniques privées. Mais les gens ont présenté leur carte soleil pareil. Là. Pour la personne, ça n'a rien changé. C'est au gouvernement de dire, au lieu d'utiliser un hôpital public, on a utilisé une clinique privée. Alors, on est capable d'avoir ce mix-là. Le meilleur exemple que je donne aux gens, quand on parle du privé, regardez comment on a mieux utilisé les pharmaciens. Les pharmaciens, c'est des entrepreneurs privés. On a conclu des ententes avec eux pour la vaccination. On a travaillé avec le système privé. C'est ça que la pandémie nous a montré, qu'on n'avait pas à avoir l'exclusivité dans le public pour être capable de mieux servir les Québécois.
L'idée, c'est pas de faire sortir la carte de crédit du monde, c'est de faire faire certains gestes par des employés du privé plutôt que du public.
Complémentaire quand on en a besoin au bon moment. Et quand je dis complémentaire, il y a des types d'opérations qui peuvent se faire mieux. Par exemple, je donne l'exemple des cataractes parce qu'on a trouvé des cliniques spécialisées qui ne font que ça. Et pendant ce temps-là, bien, nos hôpitaux publics peuvent faire des opérations plus complexes. Cette complémentarité-là, c'est ça que les Québécois nous demandent, d'être capables d'être efficaces dans notre réseau de santé.
Merci, M. Dubé. Bonne soirée.
Ça fait plaisir, M. Lagacé. À bientôt.
Merci. À la prochaine. Salut Luc.
Salut Patrick.
Bon, toi, t'es un communiste, comme chacun le sait.
Oui.
Le privé, tu penses que c'est aussi pire que le démon. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là présentée par le ministre qui dit, écoute, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait certains actes, certains soins qui soient posés par le privé, mais les gens vont pas payer pour ça.
Bon, plusieurs choses. D'abord, il y a d'énormes pans de notre système de santé qui sont déjà privés.
Oui, mais souvent, il faut que tu payes toi-même.
Oui, mais là, je parle pas de ça. Je parle du système de santé privé qui fonctionne sans que les gens paient eux-mêmes. Lorsque tu vas dans une clinique médicale, les médecins, ce sont des entreprises. Ce ne sont pas des employés de l'État. Ils font tous un rapport de compagnie. Ils déclarent leur revenus, puis de ça, ils déduisent leurs dépenses, etc. Ils ne sont pas liés à l'État par un rapport d'emploi salarial. Mmh. La deuxième chose, le propriétaire de la clinique, lui aussi, est privé. Le personnel administratif, il n'est pas soumis aux conventions collectives des employés de l'État, ni les infirmières. Donc, il y a déjà beaucoup de privés.
Oui, d'ailleurs, mais en psychologie... Attends. OK, ça, j'entends tout ça. La personne qui s'est déchiré un ligament, la personne qui a un problème de santé, elle s'en contrefiche. Si la personne est visée par une convention collective du privé ou du public.
C'est ça.
Mais t'es-tu d'accord avec ça?
Ben oui, absolument. C'est-à-dire que pour l'instant, ça marche déjà comme ça en grande partie. Qu'on décide d'envoyer dans une clinique privée les cataractes ou les opérations du genou en grand nombre, ben je pense que c'est comme quand on décide d'envoyer dans des cliniques de psychologues privés des cas de personnes qui souffrent de problèmes psychologiques, qui ont besoin d'un traitement. Il en reste très peu dans le public. Souvent, on fait affaire avec des cliniques privées. C'est déjà le cas. Là, on dit on va ouvrir les vannes, on va aller jusqu'à 20 %. Bon, j'attends de voir les détails. Mais il y a plusieurs éléments auxquels on doit faire attention. Fait que la base, c'est pas, ça mange pas de pain, c'est pas dangereux. La base. Maintenant, les détails. Comment vont être faites les ententes avec le gouvernement si, par exemple, il y a des cas complexes?
Luc, je vais y aller spontanément. Okay,
oui, vas-y.
J'entends tes nuances, j'entends tes bémols, puis je comprends tout ça. Christy, ça peut-tu être pire que le système actuel?
Non, c'est vrai. Le système actuel, c'est justement... Moi, je pense que c'est une opération de délestage. C'est-à-dire que on arrive... Puis d'ailleurs, c'est Monsef Deraghi qui l'a dit. Il a dit... C'est un aveu d'impuissance. Parce que le privé, il y a les mêmes infirmières, il y a les mêmes médecins, il va faire les mêmes opérations avec à peu près le même matériel médical que le public. Alors pourquoi on ne le fait pas dans le public? On ne le fait pas parce qu'on n'arrive plus à gérer le public. C'est une opération, c'est de l'impuissance. J'entendais M. Levine dire qui a déjà géré...
David Levine, l'ancien ministre.
Oui, lui a dit, bon, ben, à une certaine époque, on m'avait demandé de faire 3000 opérations du genou en quelques mois, puis je m'étais entendu avec les chirurgiens, puis on y était arrivé. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera plus, puis on n'y arriverait plus. Donc, on dit, OK, on va délester cette partie-là, mais on ne va pas au fond des choses. Là. On ne règle pas le problème du public en faisant ça. À long terme, si tu as le privé à côté... Puis que, par exemple, il y a une croissance. Il y a de plus en plus d'opérations qui sont... Où tu penses qu'ils vont prendre leur personnel? Ils vont le prendre dans le public. Il n'y a pas un bassin d'infirmières caché en dessous des cliniques privées qui leur serait exclusive.
Ouais. Écoute, j'ai déjà visité, il y a longtemps, là, la clinique privée Rockland MD. Okay?
Oui, oui, oui.
Puis j'avais parlé à des infirmières là-bas qui étaient toutes des anciennes du public, qui ne voulaient pas retourner dans le public, mm-hmm. qui aimaient la façon dont ça fonctionnait dans la clinique privée. Et c'était le même principe. Là. J'ai assisté à une opération qui n'était pas une sorte d'opération de chirurgie esthétique. Là. C'était payé par le public dans une clinique privée. Il n'y a personne qui voulait retourner dans les hôpitaux parce que, semble-t-il, que c'était extrêmement mal géré.
Bon, d'une part, j'en doute pas. Mais moi, en règle générale, je pense que quand quelque chose est mal géré, c'est parce que c'est difficile à gérer. Et la raison pour laquelle c'est difficile à gérer, c'est souvent que les cas qu'on laisse au public, ce sont des cas complexes. Parce que si tu vas juste pour une cataracte, c'est fini, tu sais, une cataracte de base, tu n'as pas de problème. Si tu as des problèmes de santé mentale, que ça fait des années que tu aurais dû te faire opérer, ça fait 3 fois que tu rates ton rendez-vous, là, ça commence à être plus compliqué. Cette personne-là, ça me surprendrait beaucoup qu'on la prenne au public. Parce que quand tu vas dans un hôpital, mettons l'ancien hôpital Saint-Luc, maintenant qui était absorbé par le CHUM, j'y ai été à un moment donné, et il y avait qui à la sortie de l'hôpital pour avant d'obtenir ta sortie? Une travailleuse sociale, systématiquement la travailleuse sociale, avec un certain pourcentage des clients. Est-ce que vous avez un endroit où coucher ce soir? Où est-ce que vous allez aller? Faites attention à la consommation de dope pendant la prochaine semaine, etc. Parce que ce sont des cas, c'est le reste de la société là, qui est là. Alors oui, je veux bien croire, moi, que si tu faisais un bunker public, on accepte les cas de cataracte et de genoux, juste les cas de cataracte et de genoux, juste selon ces conditions-là, le public sera presque aussi bon que le privé, j'en suis persuadé. Pas aussi bon, parce que dans le public, le privé a une capacité de contraindre les employés au niveau des horaires que le public n'a pas. Et aussi, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent plus d'argent... les Américains disent upfront, ils donnent plus d'argent à l'acte, mais après ça, t'as pas toutes les couvertures qui viennent avec. Par exemple, congé de maladie, congé retraite, etc., etc. Il y a des gens qui préfèrent être gérés de cette façon-là. Donne-moi plus d'argent tout de suite, je m'en fous la retraite, on verra ça plus tard. Quand tu vas dans le public, c'est pas pareil. Alors, en échange de quoi, le privé est capable d'exiger plus de ses employés. OK, tu vas rester jusqu'à 7 heures ce soir, mais je te donne plus d'argent. Alors, à cause des conventions collectives, on n'arrive pas à faire ça au public. Donc, il y a un petit avantage. Mais je pense qu'un gros avantage, c'est le fait que ce sont des opérations très, très, très paramétrées. C'est des opérations payantes.
Ben, mais je veux dire, paramétrées, puis disons que sur la même période d'une semaine, paramétrées ou pas, tu es capable d'en faire 100 dans le public, puis tu es capable d'en faire 125 dans le privé.
Tu vas au privé.
Ben, c'est ça.
C'est clair.
Écoute, Il y a tellement de problèmes d'accès, puis tu sais, on le dira jamais assez. Quand tu rentres dans le système, tu es bien pris en charge, tu es bien soigné au Québec. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. C'est d'entrer dans le système. Si tu as un accident de voiture, un AVC, une crise cardiaque, oui, ça va aller très, très vite. Si tu te déchires un ligament de genou, là, bonne chance.
Oui, pas d'avance.
J'ai une amie qui avait un problème d'épaule. Elle a eu le temps d'aller se faire opérer les deux épaules au privé, 10 000 piastres la shot, avant d'être rappelé des années plus tard pour un rendez-vous au public. Des années plus tard.
Mon Dieu. Hey Patrick, tu me donneras l'adresse. Moi aussi, j'ai mal aux épaules.
Je vais te dire c'est qui t'en connais en plus. Luc.
Merci.
Merci.
À demain.
À demain.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, MC, ce matin, chez Paul Arcan, il y a un monsieur qui est venu raconter l'histoire de son fils qui est un adulte, qui a une déficience intellectuelle, donc qui est différent, qui trippe sur District 31 et qui a réussi à nouer un lien avec Gildor Roy. Ouais. C'est une super belle histoire. Tu veux rendre hommage aux parents d'enfants différents?
District 31 est tourné à Saint-Hubert et Gilles Charest passait avec son fils et son fils a vu Gildor. Il est parti à courir, il a vu Gildor. Et là, Gildor a donné du temps pour le jeune homme. Et puis, il a fait visiter le plateau. Après ça, le jeune homme, il était venu porter un véhicule de police qui l'a fait en modèle accolé, qui a mis dans le décor pour que le jeune homme en question voit le véhicule dans sa télévision. Et le père d'Éric, qui s'appelle Gilles Charest, a décidé qu'il voulait remercier Gildor pour son geste. Et moi, écoute, ça m'a chaviré
ce matin.
Parce
que Gildor a passé beaucoup de temps avec. C'est un moment, là, c'est un segment qui était très, très touchant.
Et je vous ai sorti un extrait, justement, où M. Charest remercie Gildor.
M. Charest.
Oui, en terminant, là, je veux juste souligner le grand cœur et la très grande générosité de Gildor.
Monsieur, vous avez les bons mots, puis je vous comprends, puis vous direz à Éric que vous avez pris le temps de féliciter puis remercier Gildor, puis d'avoir ce petit échange avec lui.
Bien, vous êtes bien aimable, je vous remercie.
Merci, M. Charest. Dites bonjour à Éric.
D'accord, au revoir, M. Charest.
Au revoir.
Donc, M. Charest, évidemment, était très touché, et lui, il rendait un hommage à Gildor. Et moi, ce soir, j'ai décidé de faire un hommage à Gilles Charest, à son épouse, et à tous les messieurs et Mme Charest qui nous écoutent. Vous le savez, Catherine et Patrick, vous êtes parents. Être parent, là, c'est le don de soi total. On voudrait, tu l'as dit souvent, Patrick, en ordre, et je suis assez d'accord, tu donnerais ta vie pour ton fils, parce que c'est plus important que tout. Et là, je veux parler aux parents, et vous sachez que vous êtes plusieurs à nous écouter, qui ont un enfant différent. Et vous êtes pas juste des parents dans le don de soi, vous êtes des parents extraordinaires, puis je trouve qu'on parle jamais de vous autres. Dans notre métier, nous autres, on croise des gens, je pense à Charles Lafortune, à Sophie Préjean, Rémi Girard, Kim Thuy, Patricia Paquin, Mathieu Graton, qui ont un enfant ou des enfants différents. Et puis, quand on les croise, on est un petit peu timide, on est un petit peu gêné, parce qu'on n'ose pas vous en parler. On n'ose pas vous parler de ce sujet-là, parce qu'on sait que vous êtes extraordinaire, mais on vous le dit jamais. Et pourquoi ça nous touche? C'est parce que l'amour que vous avez pour votre enfant, c'est un amour inconditionnel. Parce que quand je regardais le documentaire, par exemple, qui s'appelle « Autisme bientôt majeur », Sophie, en nous parlant de son fils, Mathis, nous disait « Je dis à mon fils tous les jours que je l'aime, mais lui, il me le dira probablement jamais. » Et ces parents-là, vous savez que votre fils, c'est pas qu'il vous aime pas. C'est pas qu'il veut pas vous dire « Je t'aime ». C'est que c'est une malchance de la vie. La vie n'a pas donné les aptitudes pour dire « Je t'aime ». Fait que votre amour au quotidien, ce que vous faites 24 heures sur 24, le fait que vous êtes un parent dédié, vous êtes sérieusement des héros, puis on vous le dit jamais. Puis quand on vous en parle, vous parlez d'une angoisse que je comprends. L'angoisse, comme M. Charest de ce matin vit, son fils vit à la maison, il a 45 ans. L'angoisse que votre enfant vous survive. Et ça, je sais que c'est difficile pour vous parce que vous vous dites un jour, il y a des gens qui vont s'occuper de mon fils ou de ma fille et j'espère qu'ils vont être aussi aimants que moi, mais je le sais pas. Et c'est ici qu'embarque une petite histoire personnelle de ma vie. Du côté de mon père, il était 13 enfants. Vous savez, à cette époque-là, on avait beaucoup d'enfants. Et les statistiques étant ce qu'elles sont, ben, sur 13 enfants, il y en avait un qui avait une différence. Je veux pas aller dans les détails, parler de sa maladie, mais je peux juste vous dire que, longue histoire courte, il est comme collé en 1972. T'sais, quand il me voit, il pense que je suis mon père, parce qu'en 72, mon père est à peu près l'âge que j'ai à cette heure. Puis en gros, lui, sa vie s'est arrêtée un soir de 72. Fait que il revit toujours une soirée qui semble pénible parce qu'il est toujours dans ses pensées puis ça va pas très bien. Fait que mes grands-parents, comme vous, qui êtes des héros, étaient des héros parce qu'ils se sont occupés de lui, de leur fils différent. À l'époque, il y avait encore plus de préjugés qu'aujourd'hui. Fait qu'ils s'occupaient du petit pas fin du village, tu sais. Puis ils s'en sont occupés du plus qu'ils ont pu. Puis comme vous pouvez vous imaginer, ben, mes grands-parents, ils sont morts aujourd'hui. Donc les parents de mon oncle handicapé, ils sont morts aujourd'hui. Mon oncle a 71 ans. Puis aujourd'hui, ben, il reste dans une résidence dans le bas du fleuve avec une dizaine de gens comme lui, différents. Ma famille et moi, on va le visiter, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, on y va quand on passe par là, tu sais. Puis on passe des après-midi avec, tu sais. Un, on l'a pas abandonné. Deux, il vit bien. Pour être franc, est-ce que je peux vous dire qu'il est heureux? C'est difficile à dire, mais je peux vous dire qu'il semble vivre une belle vie. Et comme il nous mélange un petit peu parce qu'il vit en 1972, ben, bientôt, ça sera pas mon père qui va voir en moi, mais ça va être mon grand-père. Donc, lui, son père, parce que je vais avoir l'âge de son père à l'époque, même s'il n'est plus là. Fait que quand on va le visiter, il est content de recevoir de la visite, parce que ça change la balle de place. Sa soirée de 1972 est un petit peu plus différente que d'habitude. Puis, on comprend qu'il nous aime, parce qu'il nous reparle du monde qu'il aimait, dont ses parents qui sont morts aujourd'hui. Donc, est-ce que vos enfants vont être bien un jour? Oui. Est-ce que c'est possible que du monde s'en occupe? Oui. Est-ce que vous avez le droit de les aimer? Bien sûr. Puis je veux qu'à partir de maintenant, j'aille plus le sentiment de poser vous en parler de ça parce qu'on se sent impuissant devant votre situation. Mais à partir de maintenant, je veux vous en parler, puis à ce soir, je veux vous le dire. Je veux qu'on vous rappelle que, un, si vous avez un ou des enfants différents, un, vous êtes les meilleurs parents du monde. Deux, vous êtes les meilleurs êtres humains du monde. Trois, on le sait que vous faites tous les sacrifices pour quelqu'un d'autre, et ça, ça nous touche. On sait que l'amour que vous avez pour vos enfants, c'est l'amour le plus inimaginable parce que c'est un amour inconditionnel avec lequel il n'y a pas toujours du retour. Puis, on ne vous le dit pas assez souvent qu'on vous admire. Donc, M. Charest, qui était avec Paul ce matin, votre femme et tout le monde qui m'écoute en ce moment qui a des enfants différents, si on a la chance, dites-leur qu'ils sont des êtres exceptionnels, qu'ils sont des super-héros et que nous, en tant que parents, on veut être des parents comme vous. Puis on s'excuse de ne pas vous le dire assez souvent. Merci beaucoup, beaucoup pour ce que vous faites.
Super chronique.
Bravo.
Bon, la guerre en Ukraine, c'est la guerre sur le terrain avec toutes ses horreurs, on le sait, mais c'est aussi une guerre de désinformation, de propagande. On en parle avec un spécialiste, Tristan Mendès-France, maître de conférence à l'Université de Paris et membre aussi de l'Observatoire du conspirationnisme. Tristan, bonjour.
Bonjour à tous.
D'abord, qu'est-ce qui vous frappe sur la dynamique de désinformation, le plus particulièrement depuis le début de la guerre d'invasion menée par la Russie en Ukraine?
Ce que je trouve assez fascinant, c'est la bascule de tout ce qu'on appelle la complosphère autour du Covid, qui a changé tout simplement de sujet. On a les mêmes acteurs hein, de la désinformation, des gens qui propagent des théories complotistes, qui étaient sur les théories complotistes autour du Covid et qui ont simplement basculé, tous autant qu'ils sont, quasiment tous, sur le drame de la guerre en Ukraine. Et ça, c'est un phénomène planétaire. On le constate vraiment absolument partout. Et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant.
Qu'est-ce qui explique ça, qu'il y a une ligne droite entre les relais conspirationnistes antisanitaires et maintenant les mêmes personnes là, qui relaient la désinformation russe?
Il y a une logique de base, disons, quand on a basculé disons, dans une posture complotiste, de garder toujours à l'idée que tout est lié. Et par conséquent, si on nous a menti sur ce qui s'est passé sur le Covid, on va évidemment nous mentir sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc en fait, c'est simplement un switch de sujet, une bascule sur les sujets, mais demain, ce sera autre chose. Hein, donc pour l'instant, la focale de toute la planète, tout le monde est concentré sur cette guerre en Ukraine légitimement parce que c'est quelque chose de dramatique qui a un impact sur tout le globe. Donc, il focalise sur ça, mais demain, ce sera probablement un autre sujet.
Tristan, il y a les relais russes là, connus, les ambassades russes, le ministère des Affaires étrangères, il y a des médias en ligne à la Sputnik, à la RT, etc. Donc, les suspects habituels. Mais qu'est-ce qui explique que des individus qui sont pas russes, qui sont pas reliés à la Russie, décident de tomber dans ces mouvances-là et de les relayer?
tout simplement parce que ces médias, notamment RT et Sputnik, qui ont perdu beaucoup de visibilité parce qu'ils ont été déplatformés, ils ont perdu leur plateforme sur YouTube, qui était leur principale force de frappe, publiaient des contenus qui entrent en résonance avec les préjugés que peuvent avoir certains qui ont, encore une fois, une posture complotiste. Donc en fait, ils viennent simplement donner une offre à une demande qui existe déjà. Si on pense que, ou si on déteste l'Occident, les États-Unis, si on a une opinion déjà négative et qu'on a en face un ennemi désigné, eh bien on va inverser mécaniquement tout ça et on va écouter la propagande poutinienne simplement parce qu'elle entre en résonance avec nos croyances préétablies.
Et est-ce qu'on peut dire que la pandémie a créé, disons, une sorte de marché pour les gens qui veulent des faits alternatifs, qui veulent entendre des discours, disons, contradictoires, mais qui sont complètement faux?
Oui, il n'y a pas de doute que la séquence du COVID a créé un capital d'audience absolument extraordinaire. Et ce capital d'audience qui a basculé dans une posture complotiste, qui ne se nourrit que sur les réseaux sociaux en s'abonnant sur certaines chaînes complotistes, ce capital-là a servi de plateforme à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui se déployer en termes de complotisme et de désinformation autour de la guerre en Ukraine. Donc la séquence Covid est absolument spectaculaire dans la capacité qu'elle a eue de générer une audience planétaire, de créer une audience planétaire qui était tout à fait prête à basculer sur la séquence crise ukrainienne.
Ça donne le vertige quand on y pense, parce qu'il y a soudainement d'énormes marchés pour des faussetés.
Oui, et on a surtout quelque chose qui est aussi faramineux, c'est qu'on a une globalisation du marché de la désinformation. Et c'est absolument stupéfiant de voir à quel point une information qui apparaît en Russie, en Chine, au Brésil, en France, en Suisse, au Canada, peut instantanément se diffuser et contaminer plein d'autres communautés internationales qui sont, elles, sur une posture complotiste. Donc, il y a un marché globalisé de la désinformation avec une circulation spectaculaire de l'information, de la désinformation. Et c'est quelque chose d'assez inquiétant pour nos démocraties, parce que c'est justement parce que nous sommes des démocraties ouvertes que nous sommes aussi, susceptibles d'être attaqués par la désinformation coordonnée en provenant de la Russie. En Russie, si vous avez une opinion qui sort un peu de la propagande poutinienne, vous êtes carrément arrêté ou envoyé en prison. Chez nous, vous pouvez avoir une posture et des opinions complotistes, vous ne serez pas arrêté, pas pour vos opinions. Mmh. Et c'est justement une dissymétrie qu'il y a entre nous et la Russie.
Les médias, on parlait des médias Sputnik et RT, là, qui sont financés par les Russes pour donner d'abord une belle image de la Russie et ensuite et surtout, monter en épingle des problèmes qui ont cours dans les démocraties. Ça a été banni en France, ça a été banni en Europe. Le Canada est encore en train d'étudier là, le sort de ces scènes-là pour ce qui est de la télévision. Je dois vous dire, Tristan Mendès-France, comme journaliste, j'ai comme un malaise à voir des médias qui sont bannis, même s'ils sont à la botte de Moscou. Est-ce que mon malaise est mal placé?
Non, il est parfaitement légitime de se poser la question du fait que, par exemple, RT et Sputnik aient été virés, par exemple, de YouTube. Donc, c'est des questions qui sont légitimes et qui sont saines et qui sont la preuve que nous sommes en démocratie. On peut même se poser cette question-là et on peut même la critiquer, ce que vous ne pourriez pas faire en Russie. Donc c'est une question légitime. Cela dit, ce sont pour RT et Sputnik, ils dépendent du ministère de la Défense en Russie. Mmh. Ce sont des armes de guerre. Ce sont des armes employées par l'État russe, pas comme un média comme France 24 ou BBC World ou CNN. Ce sont des organes qui ont été créés et qui sont chapeautés par, en partie, le ministère de la Défense. Donc là, on a quand même des outils qui sont utilisés de façon belliqueuse par un État qui, actuellement, à l'heure où je vous parle, est en train d'envahir un autre pays. Alors, petite précision, ils sont suspendus, notamment en France, de façon temporaire. Et si jamais la Russie devait retrouver sa raison et libérer l'Ukraine, les choses pourraient repartir dans l'autre sens. Donc c'est une suspension temporaire qui, moi, me semble légitime, encore une fois, parce qu'elle profite notamment de l'accélération extraordinaire des plateformes occidentales, et notamment YouTube, et les presque 10 milliards de vues qu'a cumulé RT, c'est grâce aux algorithmes de YouTube. Donc c'est aussi une accélération artificielle par rapport à l'audience naturelle qu'elle devrait avoir.
Et j'aimerais que vous expliquiez, Tristan Mendes-France, là, aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des spécialistes de l'information, qui ne voient pas, là, qui ne peuvent pas voir rapidement et naturellement qu'est-ce qu'une source de propagande. Quelles sont les théories du complot pro-russe qui circulent sur les réseaux présentement et dont il faut se méfier?
Alors, la stratégie russe est extrêmement complexe parce qu'elle ne vise pas forcément à pousser un narratif ou une histoire ou une seule théorie. La stratégie russe, qui est une grand classique de désinformation, elle l'a fait pour la Syrie, elle l'a fait pour plein d'autres affaires qui lui étaient défavorables, elle crée des dizaines de narratifs différents. Et son objectif final, c'est de créer la confusion dans ce que l'on peut percevoir de ce qui se passe, notamment en Ukraine ou ailleurs. Donc, en fait, la stratégie, c'est pas une seule théorie, mais plein de théories et de narratifs différents. Et du moment que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la maternité de Mariupol qui a été bombardée et dont on a vu que des femmes enceintes en sang, notamment une femme enceinte qui est décédée tout récemment, la Russie a poussé l'idée que c'était des crisis actors, que c'était pas de véritables acteurs.
Des comédiens.
Oui, et que l'autre était une Instagrammeuse et qu'en fait, elle était payée, etc. L'idée, c'est pas tant que vous croyez ou pas cette version spécifique, mais que vous vous posiez la question en disant « est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ?» Donc en gros, eux se fichent pas mal de savoir si vous croyez à telle ou telle version. Ce qu'ils veulent, c'est vous créer une confusion dans ce que vous percevez et que vous commenciez à douter même des choses qui sont parfaitement établies par les médias internationaux occidentaux.
Donc inonder l'écosystème médiatique, informationnel, numérique de fausseté pour qu'on en vienne à tout remettre en question.
Absolument. Et ça marche magnifiquement bien, malheureusement. On l'a vu lors des drames qu'il y a pu avoir en Syrie, lors de l'abattement de l'avion malaisien au-dessus du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cet avion civil qui avait été abattu par un missile qui provenait qui a été acheminé de la Russie en Ukraine. Et aujourd'hui, si vous posez la question, les gens vont dire « je ne sais pas trop ce qui a pu se passer, etc. » Pour l'assassinat ou la tentative d'assassinat de la famille Skripal à Londres, pareil, il y avait 10 narratifs, 20 narratifs différents, qui fait que parfois les gens de bonne foi se posent la question de savoir qui c'est qui les a vraiment tués, est-ce que c'est vraiment les Russes qui ont envoyé des services secrets russes qui sont partis essayer de les éliminer, on ne sait plus trop. Et ça marche malheureusement extrêmement bien.
Vraiment fascinant et vertigineux. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Bonne journée. C'était Tristan Mendes-France, grand spécialiste de la désinformation en France, maître de conférence à l'Université de Paris et membre de l'Observatoire du conspirationnisme.
Patrick Lagacé en accéléré.
Pierre Gingras est là. Salut, Pierre.
Oui, ça va?
Oui, toi, écoute, on se demandait d'abord et avant tout, comment va Gris-Gris?
Bien, Gris-Gris est en pleine forme. Il était en pleine forme, d'autant plus que j'ai mentionné qu'on augmenterait, on vient de l'entendre, qu'on augmenterait son cachet.
Ça en double.
Tu vas lui donner un petit peu plus de... C'est quoi que tu lui donnes, des peanuts?
Non, je donne jamais d'arachide. Alors, je donne deux, trois fois par jour, on lui donne des noix de cajou, parce que c'est bon pour la santé.
Bon, c'est cher,
des arachides assez rarement, des fois d'autres noix, mais plutôt, non, des graines courantes là, de tournesol, mais mélangées. Là. Spécifiquement pour Gris-Gris, il est déchaîné.
Il est vraiment déchaîné. Hein?
Bon, oui, oui.
Parfait. Donc, on avertit tout de suite les gens.
Hein? C'est pour ça qu'on en parle, c'est le printemps.
Exactement, puis c'est le printemps pour Gris-Gris aussi. OK, hey, Pierre, le printemps approche. Quand est-ce qu'on plante les semis?
Ah, on plante les semis. D'abord, effectivement, c'est vrai que le printemps approche. Quelle journée extraordinaire, puis il y en a d'autres qui s'annoncent. Mais il ne faut pas s'énerver, c'est tout simple que ça. Il ne faut pas s'énerver parce que les semis, c'est pas avant...
Il est déchaîné. À la voix, là, puis à Star Academy, il gagnerait.
C'est pas avant la première ou la deuxième semaine d'avril. Donc, il faut bien s'entendre là-dessus. Mais ça nous donne effectivement 2, 3 semaines, 1 mois pour se préparer. Et c'est ça qui est important, puis c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, la préparation. Parce que si vous avez fait, mettons, un jardin l'année passée pour la première fois, parce qu'en pandémie, il y a eu de nouveaux adeptes qui se sont additionnés, oui. Beaucoup de nouveaux adeptes, mais il y a eu plein d'erreurs qui sont faites, qui ont été faites manifestement, notamment les gens ont tendance à planter beaucoup plus de choses qu'ils devraient récolter et beaucoup plus de variétés. Il y a eu plein d'erreurs. Souvent, on plante des légumes qui sont beaucoup trop difficiles pour nous, ou qui sont le climat n'est pas adéquat.
Comme quoi, comme quoi, Pierre, non. Qu'est-ce qu'il faut éviter?
Ben, il faut, ben, un exemple, le céleri. Un céleri, là, c'est pas fait pour les, c'est pas fait pour le monde ordinaire. Moi, j'ai implanté le céleri, ça marche pas, le céleri, ok? On se met dans.
Ben, les bébés, t'aimes ça.
Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé puis qui fonctionnent pas non plus, là. Moi, j'ai jamais réussi vraiment les fenouilles. Tu sais, quand t'achètes des gros fenouilles, là. Ouais. Moi, ils étaient minuscules, ils étaient vraiment, ça pas la peine.
Mais aussi, je sais pas si je me trompe, mais moi, j'ai essayé les choux de Bruxelles. Les bébés t'aiment bien trop ça, ils ont tout mangé. Les céleri, ils ont tout mangé. Après ça, les bok choy, ils ont tout mangé ça. On dirait que quand c'est trop bon, les maudites bébêtes, mais ils ont les mêmes goûts que nous
moi,
autres.
Moi, je me souviens, mon père faisait pousser la salade, puis ça montait comme en spirale.
Oui, ça monte en graines.
Ouais, ben, c'était oui.
De quoi on parle? De bok choy?
De tout ça, là, je suis découragé.
La laitue et tout ça, effectivement, c'était souvent, on parle de la laitue. La laitue, c'est vraiment un légume de fraîcheur. Et si, puis il faut acheter, ça, c'est important. Il faut acheter des graines ou des semences qui, c'est bien écrit, qui vont résister, mettons, au fait qu'ils vont monter en graines. En anglais, c'est souvent écrit en anglais, c'est bolting. Il faut éviter qu'ils montent en graines. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas, mais ça nous donne une marge d'erreur un peu plus grande.
Okay.
Mais je veux en arriver à mon propos, c'est-à-dire que c'est temps de se préparer. Donc, tu sais les erreurs que tu as faites, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est le temps ou jamais de fouiller dans un catalogue électronique. Tu mets ça sur Internet, ça va très bien. Tu peux t'en faire venir, notamment. J'ai des noms qui me viennent en tête. W.H. Perron, qui est la maison bien connue au Québec. Johnny Selected Seed, qui est ma préférée. C'est américain, c'est du Maine, mais c'est exceptionnel. Là, il y a d'autres petites maisons québécoises, les Jardins des Coumènes, ou la Société des Plantes. Tu vas trouver plein de choses intéressantes. Et eux, les délais permettent, au moment où on se parle, on est à mi-mars, les délais sont suffisamment grands pour que tu puisses recevoir, mettons, tes graines à temps pour faire effectivement un semis. Parce qu'il faut bien s'entendre. Quand on parle de semis, là, on parlait des semis du début d'avril, les premières semaines d'avril. Là, on parle des semis des plantes qui exigent quand même une assez longue période de croissance, notamment les tomates, parce que les tomates, ça prend un certain temps, puis ils font les partir à l'intérieur, comme on dit. Tandis que si tu as de la laitue, bien, la laitue, tu plantes ça en plein temps. Tu peux le faire à la maison aussi, mais il faut tenir compte quand tu fais tes semis à la maison, mettons, de laitue, mais il faut tenir compte de la période où tu vas les transplanter à l'extérieur. Ces plantes trop tôt, comme dans le cas des tomates d'ailleurs, si tu commences ça aujourd'hui, mais ça va effectivement s'étioler avec le temps parce que la lumière est pas suffisante.
Mais
oublie ça.
Je t'arrête juste une seconde, Pierre. Planter ça aujourd'hui, je veux dire, il y a de la neige encore partout, là. Y a-tu des gens qui font ça?
Non, mais je parle des semis intérieurs. On est toujours
OK,
l'intérieur.
OK. Tu veux dire planter semis. D'accord, OK. Pas planter semis dans terre. OK.
On est toujours à l'intérieur.
Continue.
Le meilleur exemple de ça, c'est les tomates. Tout à l'heure, je te disais pourquoi les catalogues. Ben, l'exemple que je donne, c'est les tomates, parce que c'est les tomates, c'est vraiment, encore une fois, le fruit ou le légume, dépendant du point de vue où tu te places. C'est le légume le plus populaire qu'il n'y a pas dans les jardins en général, et plus particulièrement au Québec. J'ai même fait, tout récemment, dans la presse, on publie un papier sur les tomates les plus populaires. Là, au Québec, c'est Big Beef. Je te dis tout de suite, c'est gros. Big Beef, célébrité. Cherokee Purple. Pourquoi Cherokee Purple? Parce que c'est purple. C'est justement, c'est un peu brun. C'est excellent. D'un petit tomate, ben, t'as Sun Gold. Sweet Sand, c'est très sucré. Sweet Treat. Puis Candyland. Voilà pour les noms. Cela dit, il y a beaucoup de tomates, par exemple. Toutes les nouvelles variétés de tomates. Il en sort des nouvelles à chaque année. Ça, là, tu trouveras ça uniquement en catalogue et jamais en plan, parce qu'il faut bien se dire, t'es pas obligé de faire tes semis. Toutes les jardineries vont offrir des dizaines et des dizaines de plantes de tomates. Il y en a même une, je la nomme parce que c'est vraiment un artisan qui fait ça. Ça s'appelle chez Joanne et Estelle. C'était au marché public de la Prairie. Il en fait 230 variétés de plantes de tomates.
Wow.
Il y en a pour les fins et les fous sont pesés. Mais Si ça te tente, c'est ça qui est agréable, parce que c'est extrêmement valorisant, c'est facile, ça coûte rien, évidemment, puis si t'en fais beaucoup, tu peux en donner à tous tes chums, ça te tente, ben tu fais ça à la maison. Puis à la maison, c'est pas compliqué. T'achètes des graines, évidemment. D'ailleurs, elles sont sorties. Moi, hier ou avant-hier, j'ai vu les premiers dans les grands magasins d'alimentation. J'ai vu les premiers étals qui se garnissaient, effectivement, d'enveloppes de semences. Donc, tu commences, tu peux les acheter aujourd'hui ou les faire venir par catalogue, comme je le mentionnais, mais pour faire des semis à la maison, c'est l'enfance de l'heure. Tu prends une barquette. Moi, je fais ça depuis plusieurs années. Tu sais, les barquettes de fraises, là, qui ont une livre de fraises, en fait, c'est une livre juste parce que c'est américain. Une livre de fraises ou encore là, les raisins, ces barquettes-là, c'est parfait. Moi, je mets 6 graines là-dedans, là, 6 de façon symétrique, mais 6 graines là-dedans. Tu t'achètes un terreau pour faire du semis, un terreau à semis, ça se vend partout, ça coûte à peu près rien. Tu humides ça, tu mets tes graines, tu fermes le couvercle, ça fait une toute petite serre, et quand ça sort, au bout d'une couple de jours, quand ça sort, ben là, quand il y a deux ou trois feuilles, après, tu ouvres le couvercle, puis là, tu fais attention à l'arrosage. Donc, c'est l'enfance de l'art. Par contre, je jasais justement avec un de vos charmants recherchistes, puis il me disait que lui, il a eu de la misère l'année passée, c'est François, ça, il a eu de la misère l'année passée. Mais il y en a une chose importante qu'il faut dire, c'est que si on utilise, mettons, des pots qui ont servi l'année passée, ou même les barquettes de fraises qui ont servi l'an passé, il faut toujours les désinfecter, ou en fait, les rendre les moins, comment dire, les moins propices à transmettre des maladies. Donc, il faut les laver avec du savon ou encore à l'eau bouillante. C'est la façon la plus, comment dirais-je, la plus sûre pour éviter que la contamination se fasse. Parce qu'effectivement, il y a de la contamination avec du sol. Il faut jamais... Ah, ça, c'est important, si on est des néophytes. Il faut jamais utiliser la terre du jardin. Jamais utiliser de la terre dehors. Faut utiliser quand je parlais tout à l'heure du terreau à semis, faut utiliser le terrain à semis parce que lui, il est déjà désinfecté, il est déjà stérile. C'est ça qu'il faut.
Pierre, je vais t'interrompre, puis je vais faire un message d'intérêt public. Oui, il y a bel et bien un oiseau, puis il n'est pas dans votre maison, mesdames et messieurs. Il est dans la maison de notre chroniqueur Pierre Gingras. Donc, continue, Pierre, parce que les gens, il y a des gens qui me demandent où est l'oiseau.
Mais moi, j'essaie de ne pas l'entendre. Une fois que tes semis poussent à la maison, une fois qu'ils sont partis, c'est ça qui est important, c'est de les mettre à la lumière. Il faut mettre ça vraiment sur une fenêtre plein sud ou sud-est pour profiter le plus de lumière possible. Et dans certains cas, effectivement, si vous n'avez pas suffisamment de lumière, il faut pas utiliser des néons qu'on appelle... Bon, gris-gris, vraiment.
Ouais, déchaîné.
Non, mais gris-gris fait ça parce que tu parles.
C'est ça.
Parce qu'avant qu'on t'appelle... puis qu'il y avait le silence dans ta maison, j'imagine que Grigri ne faisait pas son show. Là.
Ben, Grigri avait commencé un peu. Faut croire qu'il savait que l'émission s'en venait. Ben, Il faut croire qu'il savait que l'émission s'en venait. Mais je l'ai changé d'endroit. Je l'ai mis un peu à l'écart. Au moment où vous l'entendez, moi, je ne le vois pas. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission, c'est la raison pour laquelle il se manifeste. C'est pour attirer l'attention. Souvent, c'est comme un bébé.
Ça
le
marche.
Bébé, ça pleure des fois, pas juste parce que ça fait mal, parce qu'il va attirer l'attention.
Ça fonctionne vraiment bien, en tout cas.
Oui, mais ça, là, il chantonnait une toune de Desjardins, d'ailleurs.
Ah, quand même!
Ah oui, il chante du Richard Desjardins.
Du Richard Jardin, il chante du... laisse-moi réfléchir.
Le cœur est un oiseau?
Jean-Sébastien Bach, Daniel Lavoie et deux, trois autres.
Grigri et hipster?
Pardon?
Grigri et hipster?
Bon, Pierre, on arrive vers la fin de la chronique. La fin de l'opération semis, quand les feuilles se mettent à sortir, on met ça au soleil.
On met ça au soleil, mais on fait attention à l'arrosage. Puis dès qu'ils ont deux, trois feuilles, on les transplante dans un pot qui est plus gros, dans un pot unique pour chaque plant, pour leur permettre l'entier développement. Il faut toujours avoir l'idée aussi qu'on a tendance au Québec à transplanter un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut attendre, là, c'est le cas de le dire, là, il faut attendre, il faut se montrer patient. On ne plante pas ça avant la fin mai, début juin, préférablement.
Ah oui, OK.
On attend que le sol soit au moins à 10 ou 12 degrés. Ça, c'est aussi bête que ça. Tu mets un thermomètre dans le fond, dans 3 ou 4 pouces de sol, pour vérifier la température. Sinon, c'est qu'il va y avoir un choc de la transplantation. Et c'est pas trop bon pour la plante. D'ailleurs, il faut toujours l'acclimater. On répète ça d'année en année. Hein. C'est redondant, mais on n'a pas le choix. Il faut les acclimater. Tu vas me dire, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je les acclimate pas, puis ça marche. Mais je vais te dire, tant mieux, mon vieux. C'est parfait, mais il en reste pas moins que les précautions que je viens de mentionner, c'est celles qui prévalent pour obtenir des plants les mieux possibles.
Pierre, c'est toujours un plaisir de te parler. Nos salutations chaleureuses à Grigri et à Mme Gingras.
Hey, à propos, j'ai vu mes premières outardes aujourd'hui.
Ah oui?
Ah oui?
Elles reviennent?
Elles ont commencé à revenir.
OK.
Tu sais qu'au moment où on se parle, il y a des oiseaux qui ont commencé à nicher. Hein? Mais ça, j'en reparlerai un autre.
On est reparti, si on fait ça.
Pierre, si on commence à parler des oiseaux qui nichent, on va déborder sur la prochaine émission, mais on va te réinviter très bientôt.
Et sur la, sur la messagerie, Pierre, plein de monde nous écrivent que leur chat à la maison est après viré fou parce qu'ils cherchent l'oiseau dans le système de son.
Salut, Pierre.
OK, bye, merci.
Pierre Gingras, notre chroniqueur au vivant. Pas juste les chats, il y a quelqu'un qui me dit « Ça fait 5 minutes que je pense qu'il y a un idiot qui siffle dans le corridor du condo. »
Mais c'est fascinant quand il dit qu'il essaie d'attirer l'attention. Ça, tu sais, c'est vraiment quelqu'un, ça devient presque ridicule les sons qu'il fait parce que c'est, tu sais, c'est comme s'il faisait des gestes avec
ses c'est un vicieux.
Pierre le dit, l'oiseau gris-gris, il attire l'attention. C'est parce qu'il voit pas Pierre, fait qu'il cherche.
Oui, exact.
C'est incroyable, j'adore
ça. C'est fou.
Toujours le fun d'avoir Pierre Gingras.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.